Radio Okapi.
Le journal, Jacques-Yves Molima.
Une pénurie de fonds oblige le HCR à supprimer des programmes d'aide vitale en RDC. C'est ce qu'a affirmé hier à Genève Dominique Hyde, directrice des relations extérieures du HCR. Du coup, la vie de personnes contraintes de fuir leur milieu de vie est affectée de façon significative. La semaine annuelle de l'industrialisation de la SADC a démarré hier ici à Kinshasa pour le ministre de l'Industrie de la RDC, Julien Paluku, qui a pris la parole lors de l'ouverture. La RDC a tout le potentiel pour rapidement s'industrialiser. Enfin, actuelle situation sécuritaire dans la région du Nord Kivu et comment s'organisent les opérations d'escorte des véhicules sur l'axe Beni-Kassindi. Le capitaine Anthony Mualushai, porte-parole des opérations militaires Sukula 1, nous en parle. Il est notre invité dans cette édition du journal. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. En raison d'un manque de financement, les HCR déclarent ne pas être en mesure de répondre à l'ensemble des besoins humanitaires croissants des réfugiés et des personnes déplacées internes en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a affirmé Dominique Hyde, directrice des relations extérieures du HCR, lors d'une conférence de presse hier mardi au Palais des Nations à Genève. Elle révèle que la RDC est l'une des opérations du HCR les plus sous-financées au monde. En date du 30 juin dernier, seulement 19% du montant de 225 millions de dollars prévu au budget en début d'année avait été obtenu, indique la même source. Pour la directrice des relations extérieures du HCR, cette pénurie de fonds affecte de façon significative la vie des personnes contraintes de fuir leur milieu de vie. Pelekipe Lamondo.
Les besoins en RDC sont massifs, affirme la directrice des relations extérieures du HCR. Elle fait remarquer qu'au début de l'année, la République démocratique du Congo accueillait plus d'un demi-million de réfugiés et de demandeurs d'asile, plus de 5,6 millions de personnes déplacées internes. La même source indique que le combat entre l'armée congolaise et des groupes armés non étatiques dans la province du Nord Kivu ont déplacé 160 000 personnes supplémentaires depuis avril 2022. Par ailleurs, ajoute-t-elle, les HCR et ses partenaires dans la province de Ituri ont enregistré plus de 800 décès dus à des attaques à l'arme à feu et des raids à la machette contre les communautés locales qui ont poussé 20 700 personnes à fuir leur foyer. La directrice de la division des relations extérieures du HCR dit avoir constaté lors d'une visite dans la province de Ituri entre le 25 et le 28 juillet dernier le courage et la persévérance des femmes, des hommes et des enfants déracinés face à l'horreur, mais aussi l'impact du sous-financement. Toujours selon elle, au rythme actuel, 82% des personnes déplacées internes ne recevront pas d'aide adaptée en matière d'hébergement. De ce fait, elles seront forcées de dormir dans des églises, des écoles et des stades en plein air ou risqueront de devoir rentrer chez elles malgré les risques d'être prises pour cibles par des groupes armés.
Pendant ce temps, sur le terrain Nord Kivu, plus de 700 ménages de déplacés des Pinga dans le territoire de Walikale sont sans assistance humanitaire. Ces personnes ont fui par vagues les affrontements entre deux factions de Nyatura qui rivalisent dans la zone de Bachalimokoto. La société civile des Pinga lance un SOS au gouvernement congolais et ses partenaires humanitaires pour venir en aide à ces personnes dépourvues de tout et qui vivent dans des conditions très difficiles. Élisée Chikota.
La société civile de Pinga dit avoir enregistré plus de 720 ménages arrivés à Pinga depuis le 20 juillet dernier. Ces personnes sont venues de plusieurs villages, des localités Bushimu et Buhendu, sur l'axe Kalembe-Pinga et Mpeti. C'est notamment à Biiri, Karuta, Bukere, Lukala, Hama, Kitwangana et autres dans la chefferie de Bachalimokoto. Ils ont fui les affrontements entre les Nyatura Bazungu de Jean-Marie et celui des Nyatura des majeurs autoproclamés Munyawera. Ces groupes armés locaux qui se disputent la zone commettent plusieurs exactions face aux populations civiles, ce qui a occasionné un grand nombre de mouvements de population vers Pinga. Toujours selon notre source, certains déplacés vivent dans les écoles de la place, notamment à l'épée Bushimo, tandis que d'autres sont dans des familles d'accueil et à l'ancienne base de la MONUSCO à Pinga. La même source précise que ces personnes sont dépourvues de tout et vivent dans des conditions déplorables. Déjà, des cas de maladies sont enregistrés dans des structures sanitaires de la place. passe. La société civile lance un SOS au gouvernement congolais et ses partenaires humanitaires, mais aussi aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à ces personnes vulnérables afin d'éviter les pires. Signalons que des sources concordantes dans la zone déplorent l'absence de l'autorité de l'État dans les villages où se battent les groupes armés.
Restons dans le Nord Kivu pour parler de cet appel de l'armée. Elle demande aux conducteurs de véhicules de veiller au respect des heures du convoi sur l'axe Beni-Kassindi. Ceci après les derniers incidents ayant causé mort d'hommes ainsi que des dégâts matériels importants. Cet accident avait impliqué une camionnette qui n'avait pas respecté les consignes d'escorte. La même demande est formulée à l'endroit des associations des chauffeurs, conducteurs qui ont le devoir de sensibiliser leurs membres à ce propos. Selon le porte-parole du secteur Soukoula 1, les dangers sécuritaires ne sont pas totalement écartés sur cet axe routier. Le capitaine Anthony Mualushai est au micro de Marc Marofimbo.
Nous remarquons qu'il y a certains chauffeurs qui ne respectent pas les consignes données par l'armée. Nous demandons toujours aux usagers de la route de nous aider afin qu'ils soient aussi bien aidés. Donc, nous faciliter la tâche. Nous avons toujours demandé aux conducteurs de suivre les convois pour sécuriser leurs véhicules. Au-delà d'être pressés, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme urgence, la vie humaine est sacrée et au-dessus de tout ça. À quoi bon de perdre sa vie perdre ses marchandises parce que tout simplement on était pressé bien avant. L'armée continue à demander aux chauffeurs, surtout aux organisations des chauffeurs, aux structures qui encadrent les chauffeurs, d'insister sur le respect des heures et des directives données par l'armée sur la route pour convoyer le véhicule de Beni à Kassindi ou de Kassindi à Beni.
Le capitaine Anthony Mualushai, porte-parole des opérations militaires Soukoula 1, est l'invité de cette édition du journal. Vous le suivrez dans un instant. Et puis en territoire de Beni, 11 terroristes ADF tués et 3 armes de guerre récupérées, dont une mitrailleuse automatique de type PKM. C'est le bilan d'un accrochage entre l'armée et les ADF hier mardi dans la localité Shani Shani Baoba. Groupement Bamboulba Kisiki en secteur de Benimbao. Selon le porte-parole des opérations militaires Soukoula 1 dans la région, ces rebelles avaient contourné une position de FRDC dans le but d'étendre une embuscade au commandant du 323e bataillon qui venait avec sa jeep pour évacuer 2 militaires malades. Côté armé, un soldat a été blessé et la jeep légèrement touchée. Le capitaine Anthony Mualushai ajoute que l'armée continue la poursuite de ces terroristes qui mettent à mal la quiétude de la population. Toujours dans la région, à Butembo, les activités socio-économiques ont repris normalement hier mardi, ce après une semaine de paralysie totale consécutive aux manifestations anti-MONUSCO dans la ville. Maisons de commerce, banques, stations-services sont tous ouverts. D'après les sources proches des organisateurs des dites manifestations, il s'agit d'une reprise momentanée pour permettre à la population de s'approvisionner en vivres après plusieurs jours sans travail. Rappelons que le week-end dernier, réagissant aux appels à manifester, le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal, Moua Baikiteli Roger, avait encouragé ses administrés à vaquer normalement à leurs occupations quotidiennes. Autre nouvelle, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD est l'une des agences retenues par le gouvernement congolais à travers le ministère du Plan pour exécuter les programmes de développement local de 145 territoires. Dans les Maniema, la société civile Force Vive s'est dit inquiète de constater qu'aucun début des travaux n'est constaté sur le terrain à l'instar d'autres provinces. Des explications avec Florence Kizalunga.
La province d'Imanima, avec ses 7 territoires, va bénéficier d'une enveloppe de plus de 71 millions de dollars dans le cadre de ces programmes. Mais, depuis le lancement du dispositif opérationnel de la mise en œuvre de ce programme au Manima, rien n'a évolué. La société civile Force Vive d'Imanima, qui l'est dit, fait remarquer que dans d'autres provinces, on parlait déjà de son lancement. Maître Stéphane Kamundala.
La société civile, elle est pour le moment dubitative, si pas inquiète de constater que c'est un silence de cimetière après cet atelier-là. Alors que nous sommes en train d'apprendre que dans d'autres provinces, quelque chose de plus rassurant est en train de se faire, mais au Maniema, c'est le silence des morts.
On se rappellera que le 6 juillet dernier, les gouverneurs des provinces ad intérim avaient lancé un atelier du dispositif opérationnel de la mise en œuvre de ce programme. Cet atelier avait pour but la sensibilisation et l'appropriation de ce programme par les entités territoriales décentralisées, les députés tant provinciaux que nationaux de cette province, ainsi que de la société civile. Pour sa part, le représentant du PNID avait indiqué que les différentes actions seront orientées sur le développement des infrastructures et les services socio-économiques de base, la promotion des économies rurales dynamiques, le renforcement de la gouvernance locale et la réduction de la pauvreté. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Au Kassa Oriental, inauguration et remise ce lundi de 3 mini-réseaux d'adduction potable réalisés par les territoires de Miabi et Loupatapata par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prises ont été inaugurés et remis aux autorités provinciales. La cérémonie a été présidée par François Robota, ministre d'État, ministre du Développement Rural, en présence du gouverneur des provinces et autres personnalités. Des explications avec Esther Ndalafina.
Au mini-réseau de Miabi, un château d'eau potable d'une capacité de 200 mètres cubes a été construit par reprise. Il alimente en eau potable 17 bornes fontaines. Le territoire de Loupatapata bénéficie de deux mini-réseaux d'adduction d'eau potable. Le château d'eau de Chibombo a une capacité de 150 mètres cubes, tandis que celui de Chilundé dans le secteur de Mukumbi a une capacité de 50 mètres cubes. Deon Sunzo, coordonnateur du projet prise, a indiqué que ces mini-réseaux d'adduction d'eau potable construits par son organisation vont améliorer les conditions de vie à travers un meilleur accès à l'eau potable à près de 2 600 000 personnes réparties dans les 5 provinces du Grand Kassai. D'autres ouvrages, dont notamment les écoles, les centres de santé construits au Kassai oriental par le projet PRISE, seront aussi mis à la disposition de la population par le ministre d'État, ministre du Développement Rural. Signalons que tous ces ouvrages ont été réalisés grâce au financement de la Banque africaine de développement, BAD, en sigle. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
La série d'activités de la SADC, Communauté pour le développement des États de l'Afrique australe, prévue en RDC pour ce mois d'août, a officiellement débuté hier mardi à Kinshasa. Ces activités ont commencé avec ce que cette organisation appelle la semaine annuelle de l'industrialisation de la SADC, dont le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Cette semaine annuelle consiste pour les ministres et experts de ces États membres de la SADC, qui se trouvent en ce moment à Kinshasa, à réfléchir sur des stratégies et mécanismes permettant aux pays membres de développer des industries qui pourront désormais transformer les ressources locales des pays en produits et biens commercialisables partout dans le monde et apporter aux pays respectifs des nouvelles entrées financières. Le ministre de l'Industrie de la RDC, qui a pris la parole au cours de la cérémonie inaugurale de ce mardi, explique que la RDC a tout le potentiel pour rapidement s'industrialiser. Julien Paloukou l'a dit au micro de Donna Madimba.
Il est pensable que, par exemple, nous puissions importer pour nous la RDC pour 2,5 milliards de dollars chaque année en produits agroalimentaires. Il est impensable que pour nous, la RDC, nous continuions à importer pour 470 millions de dollars par an pour les produits pharmaceutiques. Et donc la SADC a choisi la RDC pour lancer la révolution industrielle, pour que nous puissions désormais transformer nos propres produits agroalimentaires pour devenir les fournisseurs des marchés à travers le monde. Les autres nous ont choisi comme leur marché. Lorsque vous suivez les pays qui nous entourent, ils disent tout le temps que la RDC est notre marché. Nous devons prendre conscience de cela et commencer à mettre en place des politiques publiques qui vont permettre qu'au-delà de devenir les marchés des autres, que nous devenions plutôt les fournisseurs des autres. Et c'est donc le sens de cette semaine d'industrialisation qui est placée sous l'autorité du président de la République, avec en présence ici le Premier ministre, pour dire non à cette éternelle qualification de la RDC comme le marché de tous les pays africains.
Par ailleurs, la présidence de la République organise du 2 au 4 août ici à Kinshasa un atelier de validation de l'avant-projet portant prévention et répression des violences basées sur le genre. Ce forum de 3 jours entend doter les pays de sa première loi de lutte contre toute forme de violence faite à la femme et de promouvoir ses différents droits. Le détail avec Blaise Ndongala.
Les participants à cet atelier examinent, harmonisent afin de valider les différents textes contextualisés pour prévenir et réprimer les auteurs des violences basées sur les genres. Pour la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences faites à la femme, cet avant-projet se propose aussi de lutter contre toute forme d'atteinte aux droits humains en général. Chantal Yelou Moulopo.
Cette loi qui va sortir, c'est une loi qui va couvrir tout être humain, tout, parce qu'on parle du genre. Violence basée sur le genre, c'est la violence qu'on fait à l'homme, quand c'est la violence qu'on fait à la femme. Il faut qu'il y ait des lois sur la violence conjugale qui existent ailleurs dans notre pays.
La représentante du ministre des Droits humains à cet atelier a regretté que les violences sexuelles soient devenues une arme de guerre contre non seulement les femmes, mais également les hommes et les enfants, surtout dans les zones des conflits armés. Après l'étape de la validation, cet avant-projet de loi sera porté par la ministre d'État en charge de la justice qui les présentera au niveau du gouvernement avant sa défense devant l'Assemblée nationale et puis le Sénat. Pour sa part, la représentante de Madame le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État a promis d'accompagner ces textes tout au long de son parcours jusqu'à son adoption au Parlement. Une fois adoptée et promulguée par le chef de l'État, cette loi donnera aux victimes des violences sexuelles les droits d'ester en justice contre leurs bourreaux.
Actualité internationale.
Présidentielle au Kenya, dernière ligne droite avant la présidentielle. Les deux principaux candidats accélèrent le rythme de leur meeting. Hier, William Ruto, vice-président sortant, était à Nyeri, dans la région de Mount Kenya. La population en majorité Kikuyu avait largement voté pour Uhuru Kenyatta en 2017. Mais cette fois-ci, les électeurs semblent plus divisés et William Ruto y multiplie les déplacements. Il promet de lutter contre l'inflation et le chômage.
L'invité.
Nous recevons comme invité dans cette édition du journal le porte-parole des opérations militaires Sukula 1 dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Celui-ci nous parle de la situation sécuritaire actuelle dans la région. Il s'exprime aussi sur l'opération d'escorte des véhicules sur l'axe Beni Kassindi. Le capitaine Anthony Mwalushai s'entretient avec Marc Marofimbo. Suivez.
Capitaine Anthony Mwalushai, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment se porte la situation sécuritaire dans la partie nord-est et nord-ouest du territoire, mais surtout aussi le territoire général?
En fait, d'une façon générale, la situation est relativement calme, sauf ces derniers temps. Nous avons fait face aux soulèvements populaires et aux marches des jeunes gens qui voulaient le départ de la MONUSCO, ensuite aux événements malheureux que nous avons vécu dans plusieurs agglomérations et villes du Nord Kivu, entre autres Butembo et Beni. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont maîtrisé la population, malgré qu'il y a eu des dérapages du côté casque bleu. Là, je fais allusion aux événements qui se sont passés à Kassindi, mais je vous rassure que la situation évolue positivement. Mais il faut dire que dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 2 août, dans le territoire des Lubero, nos forces armées se sont affrontées avec les groupes Maïmaï, Mazembe. C'est un groupe qui menace vraiment la sécurité dans ces territoires des Lubero. Et après des échanges, les forces armées ont eu l'ascendance sur l'ennemi et ont réussi à neutraliser Maïmaï. Et du côté FRDC, nous avons perdu des éléments. Voilà ce qui est comme situation dans cette semaine.
Pendant ce temps, la route Kassindi cause encore un petit souci. Dernièrement, on a enregistré un incident alors que l'armée disait déjà être prête à accompagner et à escorter des conducteurs. Qu'est-ce qui se passe au juste et quel est le message de l'armée par rapport à ça?
Concernant les systèmes de convoyage de véhicules sur la route Beni-Kassindi, nous remarquons qu'il y a certains chauffeurs qui ne respectent pas les consignes données par l'armée. Vous savez, nous demandons toujours aux usagers de la route de nous aider afin qu'ils soient aussi bien aidés. Nous avons toujours demandé aux conducteurs de suivre les convois pour sécuriser leurs véhicules. Au-delà d'être pressés, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme urgence, la vie humaine est sacré et au-dessous de tout ça. À quoi bon de perdre sa vie, perdre ses marchandises, parce que tout simplement on était pressé bien avant. L'armée continue à demander aux chauffeurs, surtout aux organisations des chauffeurs, aux structures qui encadrent les chauffeurs, d'insister sur le respect des heures et des directives données par l'armée sur la route pour convoyer le véhicule de Beni à Kassindi ou de Kassindi à Beni.
Pendant ce temps, la société civile, elle, demande plutôt une autre force de l'armée parce qu'il y aurait des groupes armés qui se réorganiseraient dans la partie sud du territoire.
Exactement. Au-delà de l'effectif, comme on les demande souvent chaque jour, nous pensons que la meilleure des choses qu'il faut faire, c'est travailler ensemble avec la population. Vous imaginez que ceux qui s'organisent dans les groupes Mai Mai ne sont pas des étrangers. Ce sont nos compatriotes, ce sont des Congolais qui se sont organisés pour faire mal aux autres Congolais. Vous comprenez que nous, Congolais, nous constituons au moins 90% des acteurs qui sont sur le terrain. Et vous allez comprendre que dans les 90%, il y a au moins 30% qui ne veulent pas la paix et qui se tournent contre nous et les autres qui veulent réellement la paix. Et si nous nous soudons ensemble, les 30% ne nous feront pas mal parce que nous, nous sommes majoritaires. L'essentiel pour nous et pour la société civile, c'est de travailler, d'avoir une même vision des choses. La question sécuritaire, c'est une vraiment question complexe qui ne demande pas seulement l'intervention militaire, mais aussi l'implication de tout le monde, dans la société civile, les groupes de pression. Donc, tout ce que vous connaissez comme ONG doivent s'impliquer en fournissant des alertes, des informations, des renseignements à l'armée, et aussi en sensibilisant ces groupes armés, ces enfants perdus, pour revenir à la raison. Et si nous continuons à mettre tout sous le dos de l'armée, alors ça va nous prendre un peu du temps. C'est-à-dire que nous allons faire le tout possible pour changer notre stratégie sur terrain contre ces groupes armés, mais nous ne pouvons pas gagner sans la population, sans l'adhésion de tout le monde. C'est pourquoi nous demandons toujours l'implication de tout le monde.
Capitaine Anthony Manchay, merci.
C'est moi qui remercie la Radio Capi.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.